pour votre santé, bougez plus.
Marc-Olivier Fogiel.
Forcément, sur Europe 1.
Il est 8h49, ils sont ensemble dans la douleur. Un mois après la mort de leur fils, les parents du petit Valentin ne se sont pas encore exprimés depuis qu'ils ont été reçus par Nicolas Sarkozy. Ils le font ce matin sur Europe 1 avec vous, Marc-Olivier.
Véronique et Jean-Pierre Crémaux, bonjour.
Bonjour Monsieur Fogiel.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer. Il y a un mois, donc, votre fils de 11 ans, Valentin, a été sauvagement assassiné de plus de 40 coups de couteau à Lagnieu, c'est dans l'Ain. Jeudi dernier, vous étiez donc reçu en personne par Nicolas Sarkozy, le président de la République. C'est important pour vous d'avoir pu rencontrer Nicolas Sarkozy ?
Oui, tout à fait. Nous l'avons ressenti comme un immense privilège. Notre fils était près de nous. Et pour lui, c'était un hommage formidable.
Et quels ont été les mots de Nicolas Sarkozy, le président de la République ?
Écoutez, des mots très simples pour nous présenter ses condoléances, pour nous faire part de son soutien. La présence également de Madame Alliot-Marie et Rachida Dati à nos côtés. Monsieur Nicolas Sarkozy est un président d'exception, un papa avant toute chose. Et cette chaleur humaine qu'on ne soupçonne pas à l'Élysée.
Elle vous a fait du bien.
Oui, énormément. Il y a vraiment une humanité immense à l'Élysée et c'est un réconfort absolu.
Et j'imagine évidemment qu'un mois après cette nuit d'horreur, Jean-Pierre et Véronique, du soutien vous en avez besoin. Comment vous vous sentez l'un et l'autre ?
Après le choc vient la colère. Actuellement, mon mari et moi sommes dans la colère. Dans la colère du geste. Dans la colère dont on peut imaginer justement Valentin dans ses souffrances. La souffrance qu'il a pu endurer. C'était un enfant qui était plein de vie, qui ne méritait pas surtout de ne pas avoir une mort comme celle-ci. C'est
évidemment
ce qu'il y a de plus épouvantable.
Il faut rappeler, Véronique, que le coupable présumé, Stéphane Moitoiré, a été appréhendé grâce aux traces ADN relevées sur les lieux du crime. Il s'agit d'un marginal. Qu'est-ce que ça fait pour l'un et pour l'autre de pouvoir mettre un visage sur l'horreur, Jean-Pierre, Véronique ? Ça soulage ou c'est encore plus dur ?
C'est encore plus dur.
Vous lisez par exemple dans la presse les portraits qui ont été faits de Stéphane Moitoiré et de sa compagne Noëlla Aigo, décryptant leur vie de marginaux.
Oui, mais bon, moi quelque part je me dis que ça m'étonne pas que ces gens aient pu commettre un acte pareil maintenant. De voir leur visage, ils ont la tête de l'emploi, quoi, ça se voit, ils ont la tête de criminels.
Quand vient de se voir Véronique voler son enfant de 11 ans de manière aussi sauvage, on peut admettre que le meurtrier soit malade, qu'il était en état de démence.
Il a agi avec de la folie, on dira. Mais de dire que c'est un malade mental, non. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas dans la mesure où il a quand même prémédité son acte en avouant à sa compagne qu'il allait faire un retour en arrière. Dans leur jargon de fou, un retour en arrière signifie faire un sacrifice, tuer quelqu'un. Donc il y avait un acte prémédité à la base.
Vous redoutez, en vous écoutant Véronique, qu'on le juge irresponsable et qu'il ne soit pas condamné, c'est ça que vous nous dites ce matin ?
Oui, je redoute, mais je fais confiance énormément à la justice française. Moi, dans mon cœur à moi, je l'espère de... Il purgera sa peine comme un autre prisonnier.
Quand Rachida Dati, que vous avez également rencontré, vous a dit, elle vous a rappelé que conformément à une loi récemment adoptée, une procédure judiciaire aurait lieu, même si les médecins devaient juger le suspect pénalement irresponsable, ça vous a rassuré, donc à vous écouter
oui.
ce matin.
Oui, énormément. Ça rassure à savoir que les choses aillent bien jusqu'au bout maintenant.
Elle vous a donné un calendrier judiciaire, vous savez quand aura lieu un procès ?
Non.
Et pour vous, c'est important que ce procès ait lieu rapidement ?
Oh oui, oui.
Il y a une expression qui ne veut pas dire grand-chose, mais faire son deuil. Vous pensez quand même que ça va vous permettre de continuer à avancer dans la vie, l'un et l'autre, Véronique et Pierre ?
Moi, je ne pourrai pas faire mon deuil tant que le procès n'a pas lieu.
Alors l'un et l'autre, Véronique et Jean-Pierre, évidemment, vous avez dû être confrontés à ce terrible drame, mais également vous avez dû faire face aux déformations de votre histoire par la presse, puisqu'on vous a présenté l'un et l'autre comme étant séparés. Ce n'est pas du tout la réalité, en fait, et Valentin n'était pas chez un voisin parce que vous ne vous entendiez pas. Ça n'était pas du tout comme ça que les choses se sont passées.
Exactement. J'insiste là-dessus. Ce soir où l'assassinat de mon fils a eu lieu, je n'étais pas sur les lieux du crime. Je n'y étais pas. J'étais dans l'Isère, dans ma villa, avec mon époux. Et les raisons pour lesquelles nous avons placé Valentin dans cette famille sont des raisons simples, puisque moi je reprenais mon activité professionnelle le lundi, ainsi que mon époux, et nous n'avions aucune personne pour s'occuper de Valentin Maurice pendant quelques jours.
Donc Valentin, vous l'aviez placé juste comme ça, chez des amis, chez des voisins, c'est ça que vous nous expliquez ce matin sur Europe 1
hein. Ce sont des amis que je connais très très bien depuis un an, et bon, ils ont une petite fille qui était très très proche de Valentin. Quand on a 11 ans, bon, presque 11 ans, pour lui, cette petite fille, c'était son amoureuse. Il y tenait tellement, il voulait tellement passer quelques jours de vacances là-bas.
J'imagine que vous avez eu le papa de cette petite fille au téléphone, j'imagine qu'il est effondré comme vous.
Il est effondré, mais je ne cache pas que je le en veux. Je leur en veux, puisque Valentin jouait avec ses petits copains la journée, mais jamais, que ce soit son père ou moi-même, on n'aurait jamais accepté que Valentin soit à une heure aussi tardive dans la rue.
Je comprends bien. Véronique et Jean-Pierre, vous avez un autre enfant qui a 20 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il a eu 20 ans le 2 août.
Comment il vit la disparition brutale de son petit frère?
Très très mal, dans la mesure où Florian a vécu jusqu'à présent toujours auprès de Valentin. Pour lui, c'est le choc. Pour lui, il est encore là. Pour lui, c'est pas vrai. Il va revenir.
Et pour vous, Véronique et Jean-Pierre, je lisais dans la presse que de temps en temps aussi, tout ça vous semble irréel, que vous pensez toujours que Valentin n'est pas loin, en fait.
Non, il est pas loin. Il est toujours à côté de nous. Mais je voudrais faire une petite parenthèse. Mon épouse a eu donc Florian d'un premier mariage. Et Valentin aussi a deux autres frères de mon côté, Christophe et Grégory.
Et Christophe et Grégory, donc vos enfants, Jean-Pierre, à vous, comment ils vivent la disparition de Valentin?
Ah ben, c'est très 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 mal. Ils comprennent pas pourquoi cet abruti a fait une chose comme ça. C'est pas normal. C'est de la folie. Pourquoi tuer un enfant de 10 ans? Pourquoi?
Véronique et Jean-Pierre, vous avez certainement pu lire, comme moi, les déclarations du procureur de Bourg-en-Bresse. Il estime, vous l'avez vu, que si on a pu mettre la main sur les coupables présumés, c'est en grande partie grâce au courage de Valentin, qui ne s'est pas laissé faire. Il apparaît des dizaines de coups de couteau. Et puis donc, il a obligé l'auteur du crime à laisser une trace. J'imagine que vous êtes extrêmement fier de votre petit garçon ce matin.
Oui, pour nous, en tant que parents, notre petit garçon restera un héros. Un héros, puisque bon, grâce à ses gestes de défense, peut-être aussi que par la suite, ces gestes pourront approfondir des enquêtes qui n'ont pas été élucidées jusqu'à présent, et surtout d'avoir retrouvé le coupable à une rapidité inimaginable, de par la gendarmerie qui a mené un travail exceptionnel. D'ailleurs, je le disais au président de la République, je suis très fière de mon pays. Nous avons une gendarmerie à la hauteur, nous avons des enquêteurs extra, et c'est au nom de Jean-Pierre et de moi-même que nous voudrions justement remercier également la France entière de nous avoir envoyé des témoignages de sympathie, de réconfort, de soutien. Et malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à tout le monde.
Mais vous l'avez fait ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup, Véronique et Jean-Pierre.
Merci à vous.
De vous être exprimé ce matin avec nous sur Europe 1. Merci, on vous souhaite bon courage.
Merci.
Merci.
Merci Jean-Pierre. Merci Véronique. Bonjour Michel Drucker.
Bonjour Marc, Marco.
Alors, tout à l'heure, exceptionnellement, le retour de Jacques Pradel à 9h30 à vos côtés, Michel.
Mais oui, il y a deux raisons. C'est une façon très confraternelle de se passer le relais. Europe 1 est une grande maison, mais c'est aussi l'occasion surtout d'accueillir l'auteur de Saint-Exupéry, Ultime Secret. Vous savez que Jacques Pradel écrit un livre qui est un énorme succès.
J'ai vu ça, oui.
Voilà, qu'il a co-signé avec Luc Vanrel, qui est un plongeur archéologue, et qui a identifié l'épave de Saint-Exupéry dans la région des Calanques, près de Marseille. Vous savez que c'est une enquête qui a duré des années et des années et des années, absolument passionnante, ça se lit comme un thriller. Et puis c'est vrai que Jacques connaît le sujet par cœur. On aura évidemment Jacques Vanrel en ligne, on aura également le pêcheur de Marseille qui lui,
quelques mois,
avait
retrouvé la gourmette,
la gourmette en triant le poisson.